Les informations avec Anne-Laure Chouin. Bonsoir Anne-Laure.
Bonsoir Antoine, bonsoir à toutes et à tous. Nantes, en larmes et en colère, après la confirmation que le corps repêché hier soir dans la Loire est bien celui de Steve, le jeune homme disparu depuis la nuit de la fête de la musique. L'IGPN a rendu ses premières conclusions sur l'intervention policière controversée de cette nuit-là. Vous entendrez Édouard Philippe à qui ce rapport a été remis tout à l'heure. Les soutiens au référendum d'initiative parlementaire, le RIP, contre la privatisation d'Aéroports de Paris peinent à s'accumuler, sans doute parce que nous sommes au cœur de l'été, selon ses promoteurs. Reportage à venir de Sophie Delpont. En Afghanistan, l'ONU alerte, le nombre de civils tués par les armées américaines et afghanes est inacceptable selon l'organisation. L'ONU qui s'inquiète également de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Le virus s'en prend particulièrement aux enfants qui viennent se faire soigner dans les centres de santé. Enfin, nous irons à Madrid à la fin de ce journal. Madrid qui se prépare à accueillir le plus grand chantier urbain d'Europe. Il pleut sur Nantes, c'est cette première phrase célèbre d'une chanson de Barbara qu'on peut lire depuis midi dans de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, après la confirmation que le corps repêché dans la Loire hier soir était bien celui de Steve Maya Canisso, disparu la nuit de la fête de la musique à Nantes. Le parquet de Nantes a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire suite à l'autopsie qui a donc permis d'identifier ce jeune animateur périscolaire de 24 ans. Les circonstances de sa mort sont encore à éclaircir, on y reviendra. Les proches de Steve ont attendu longtemps des réactions et des informations des autorités sur cette disparition. Et maintenant que sa mort est confirmée, Margot Delpierre, c'est l'émotion, voire la colère qui règne à Nantes.
Place Royale à Nantes, la fontaine est rouge sang, du faux, bien sûr, un colorant ajouté à l'eau pour symboliser la mort du jeune et surtout ne pas l'oublier. C'est l'œuvre d'un collectif d'artistes dont fait partie Eric Sago.
Ça me prend tellement boyau que... on va aller jusqu'au bout. Même si ça dure un an, deux ans, on fera des actions. Ce sont des actions non violentes, ce sont des actions artistiques. On ne va pas abîmer les statues, on va rien casser. Ce sera des collages, ça va être des opérations comme ça.
Comme les affichettes qui demandaient « Où est Steve ?». L'une d'elles a été repeinte en noir pour ne laisser apparaître que le prénom du jeune homme est installé au centre de la fontaine. Le collectif a aussi enfilé des brassards noirs à des statues disposées sur la place. Une place devenue le principal lieu de revendication depuis la disparition de cet animateur périscolaire.
On va changer de slogan. Justice sportive, qui a tué Steve? Il y a plein de slogans à faire. Il y a un long travail à faire pour le partout, à Nantes et un peu dans d'autres villes. Et on va pas lâcher l'affaire. Les responsables, le préfet, le commissaire qui a donné des ordres aberrants et les policiers qui ont été mais ultra brutaux contre les jeunes teufeurs doivent payer.
La colère enfle alors que le Premier ministre Édouard Philippe promet de faire toute la lumière sur cette affaire. Déjà plus de 53 000 tweets avec le hashtag « Justice pour Steve ». À Nantes, plusieurs rassemblements sont organisés. L'un devait avoir lieu il y a une heure au niveau de l'endroit où le corps de Steve a été découvert. Un autre est prévu samedi et pourrait rassembler 250 personnes qui ont déjà signalé leur intérêt sur les réseaux sociaux.
Margot Delpierre, merci. L'affaire a pris une dimension politique suite aux diverses réactions d'élus, dont la maire de Nantes, Johanna Roland, qui demande elle aussi à faire toute la lumière sur les conditions de l'intervention policière. Plusieurs personnes ont dû être repêchées dans la Loire suite à cette intervention. Des témoins parlent de charges de la police qui réfutent. Plusieurs députés de la France Insoumise demandent, eux, la tenue d'une enquête parlementaire et mettent en doute l'enquête administrative menée par la police des polices, l'IGPN, qui a rendu ses conclusions au ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner s'est rendu ensuite à Matignon et pour l'instant, le gouvernement s'en tient à ce rapport de l'IGPN, rapport qui conclut à une absence de lien entre l'intervention policière et la mort de Steve. Écoutez Édouard Philippe qui s'exprimait tout à l'heure sur ce rapport depuis Matignon.
Celui-ci indique qu'à la lumière des faits connus à la date de sa rédaction, il ne peut être établi de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Maya Canisso. Plus de 5 semaines après les faits, le déroulement de cette soirée, l'enchaînement des faits, reste confus. Je ne peux évidemment pas m'en satisfaire. C'est pourquoi j'ai décidé de saisir aujourd'hui l'inspection générale de l'administration pour aller plus loin et comprendre les conditions d'organisation de l'événement par les pouvoirs publics, mairies et préfectures, ainsi que par les organisateurs privés. Je le dis aux parents de M. Maya Canisso, comme je le dis à tous les Français, l'engagement du gouvernement, celui du ministre de l'Intérieur, mon engagement personnel, c'est de faire toute la lumière sur les causes de ce drame et d'en tirer toutes les conséquences.
Le Premier ministre, Édouard Philippe, enfin l'avocate qui porte la plainte collective déposée par 89 participants à cette soirée techno. Elle déplore un rapport qui n'apporte aucune réponse mais pose beaucoup de questions. Au deuxième et dernier pointage du Conseil constitutionnel, les signatures en faveur du référendum d'initiative parlementaire, le RIP, sur la privatisation d'Aéroports de Paris, comptabilisait 615 000 signatures, soit 13% des 4,7 millions de signatures exigées avant la mi-mars 2020, condition préalable à la tenue d'un référendum pour empêcher donc la privatisation des deux plus grands aéroports de France. Le rythme des signatures était divisé par deux par rapport au mois dernier. Bonsoir Sophie Delpont.
Bonsoir.
Une baisse de rythme que les élus qui soutiennent ce RIP attribuent au creux estival et à la baisse de mobilisation qui l'accompagne.
Oui, les partisans du référendum d'initiative partagée, comme le député Les Républicains François Cornu-Gentil, préfèrent relativiser ce chiffre.
615 000 signataires, effectivement, on est encore assez loin des 4,7 millions de signatures qui sont nécessaires. Mais c'est déjà une mobilisation très forte, hein. Surtout quand on prend en compte deux choses. D'une part qu'on est au cœur de l'été, donc pas dans un moment politique intense. Et d'autre part qu'il n'y a eu aucune campagne d'information officielle sur cette initiative de RIP.
Il souhaiterait la mise en place de spots télévisés et radio, notamment radio et spots télévisés officiels sur le sujet. Le député socialiste Boris Vallot souligne, lui, l'investissement des élus sur le terrain et les actions menées conjointement entre militants socialistes et communistes notamment. Mais le rythme a effectivement été divisé par deux sur le nombre de signatures engrangées chaque jour par rapport au mois précédent, alors même que le mois d'août risque d'être encore plus difficile pour mobiliser. Les actions de la part des militants se sont déjà espacées, reconnaît le député de la France Insoumise, Alexis Corbière.
Nous avons, et nous continuons à le faire pendant l'été, organiser des porte-à-porte, des déambulations, mais encore faut-il qu'il y ait cette démarche civique, cette démarche citoyenne de la part de militants qui expliquent à nos concitoyens le droit au repos de chacun, il se ressent aussi sur cette campagne. Lorsque, durant le mois de juin, quand tout le monde était encore en pleine activité, si je puis dire, on était au-dessus de la moyenne. Nous le savions qu'il y aurait un ralentissement, mais c'est pas inquiétant en soi. Mais il faut à la rentrée, remettre le couvert, si je puis dire, et rappeler que nous sommes encore dans cette campagne.
Avec un premier objectif pour les partisans du RIP, atteindre le million de signatures dès la mi-septembre.
Sophie Delpont, merci beaucoup. Le repreneur de Whirlpool a finalement été repris. Lui aussi, le tribunal de commerce d'Amiens a confirmé tout à l'heure l'offre d'Ageco Agencement pour reprendre WN qui avait racheté l'usine de Whirlpool après la délocalisation de la production en Pologne l'année dernière. 138 salariés vont être licenciés, 44 seulement seront repris. WN a été placé le 3 juin dernier en redressement judiciaire faute de débouchés commerciaux concrets pour ses casiers réfrigérés et chargeurs de batteries. En Algérie, les manifestations continuent. Ce mardi, un millier d'étudiants a défilé à Alger ce matin, 23 semaines après le début de la contestation. Au cri de « un état civil, pas militaire », ils ont refusé le dialogue avec l'instance installée par le pouvoir en place. Instance censée définir les modalités d'une future élection présidentielle qui a été repoussée. Ce groupe de personnalités doit aussi permettre d'instaurer un dialogue entre la classe politique, la société civile et le mouvement de contestation. Mais les personnalités qui la composent sont elle-même contestée. L'armée algérienne vient par ailleurs de refuser catégoriquement tout dialogue préalable à la tenue d'élections. En Afghanistan, les civils continuent de mourir à un rythme inacceptable. C'est la conclusion d'un rapport de l'ONU qui dresse un bilan de la situation dans le pays sur les 6 premiers mois de l'année. Plus de 1360 civils ont été tués, 2400 blessés et les principaux responsables ne sont pas les talibans, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Valérie Crova.
Ce sont les frappes aériennes afghanes et américaines qui ont fait le plus de victimes. 717 morts depuis janvier, 686 de plus que ceux attribués aux talibans et à l'État islamique. Un bilan amer que la mission des Nations Unies pour l'Afghanistan avait déjà pointé du doigt en avril. Dans un précédent rapport, la MANUA avait dénoncé le fait que les raids menés par la coalition internationale et l'armée de l'air afghane faisaient plus de victimes civiles que les groupes qui combattent sur la terre afghane. Comme ces 10 enfants tués lors d'une frappe aérienne le 22 mars dernier dans le nord de l'Afghanistan, ou ces 14 personnes mortes le 20 mai dans deux bombardements dans le sud et l'est du pays. Seuls les États-Unis mènent des opérations aériennes en Afghanistan, à côté des forces afghanes. Mais il n'y a pas que les bombardements qui tuent. Les munitions non explosées font aussi des victimes, et notamment des enfants qui les touchent, sans penser au danger. 327 petits Afghans sont morts ainsi, en manipulant des bombes, depuis début 2019.
Valérie Crova, et puis on apprend qu'à Hong Kong, des heurts entre police et manifestants pro-démocratie ont été signalés devant un commissariat de police, alors que 44 manifestants ont été arrêtés et vont être inculpés pour participation à des émeutes. Un délit passible de 10 ans de prison au maximum, a déclaré un responsable de la police hongkongaise. C'est une réponse directe à la demande de Pékin hier de redoubler d'autorité avec les contestataires. Depuis qu'elle est réapparue en août dernier en République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 1700 morts. L'Organisation mondiale de la santé la considère comme une urgence sanitaire mondiale. Et cet après-midi, l'UNICEF, la branche de l'ONU en charge de l'enfance, a mis en garde. Les enfants, justement, sont particulièrement touchés par ce virus en RDC. L'UNICEF qui parle d'un nombre sans précédent de mineurs atteints par la maladie. Les précisions depuis Genève de Jérémy Lanche.
À plusieurs reprises, nous avons été proches de contrôler l'épidémie d'Ebola. En tout cas, c'est ce que nous avons cru. Les mots de Jérôme Pfaffmann illustrent bien le malaise qui règne actuellement au sein de l'ONU à propos d'Ebola. Ce spécialiste santé de l'UNICEF rentre tout juste de RDC et il s'inquiète de la proportion inédite d'enfants atteints par la maladie, 25% au moins des 2671 cas répertoriés, en cause notamment les infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections dans les centres de santé très fréquentés dans l'est de la RDC.
Lorsqu'un enfant est malade d'une autre maladie, les parents amènent ses enfants dans un centre de santé et après, ils peuvent être contaminés pendant les soins et après développer la maladie. Donc ça, c'est une des raisons principales. Une autre raison, c'est effectivement, tout le monde soigne les enfants lorsqu'ils sont malades. Particulièrement, les enfants de moins de 5 ans sont pris en charge par l'ensemble de la communauté et du coup sont exposés à plus de personnes contact éventuellement.
L'UNICEF le rappelle, Ebola n'est pas la seule menace sanitaire pour les enfants en RDC. À elle seule, la rougeole tue autant qu'Ebola et le choléra réunis. L'Agence des Nations Unies a ainsi vacciné plus de 40 000 enfants contre la rougeole dans la grande ville de Bunia, où des cas d'Ebola ont par ailleurs été détectés. Mais l'UNICEF veut atteindre encore plus de monde et dans cette bataille, l'argent reste le nerf de la guerre. L'UNICEF appelle la communauté internationale à l'aider à financer ses programmes en RDC, alors que ses besoins ont triplé en 2019, avec un budget qui flirte désormais avec les 170 millions de dollars.
On en parlait ce matin dans nos journaux, le mathématicien turc Tuna Altinel, enseignant en France à l'université Lyon 1 et jugé à Istanbul pour appartenance à une organisation terroriste, a été remis en liberté. Les autorités turques lui reprochaient d'avoir participé en France à une réunion de l'opposition de son pays. Le juge a finalement ordonné la remise en liberté sans mesure de contrôle judiciaire du mathématicien. Décision accueillie par des cris de joie et des applaudissements d'une centaine de ses soutiens. Ce doit être le plus grand chantier urbain d'Europe. 20 ans de travaux, des milliards d'euros d'investissement, 3 gratte-ciels, 10 000 logements. C'est à Madrid, en Espagne, que cela va se passer. Un projet éclos il y a 25 ans déjà. Et cette fois, c'est fait. Le conseil municipal a adopté le projet Madrid Nuevo Norte. Les précisions de notre correspondant à Madrid, Mathieu de Taillac.
Tout est colossal dans ce projet. Parmi les 3 nouveaux gratte-ciels se trouvera le plus haut d'Espagne, plus de 300 mètres et 70 étages. Au total, ce sont plus de 10 000 logements qui doivent accueillir 27 000 habitants, sans compter les bureaux qui seront proches de l'actuel quartier d'affaires. La gare de Chamartín, refaite, doit être l'une des plus grandes du continent. 3 nouvelles stations de métro, une gare RER, 500 000 m² d'espace vert pour ce quartier de Madrid ultramoderne qui sera achevé en 2043. Le projet pharaonique mettra plus de 20 ans à être entièrement réalisé. Les derniers chiffres qui donnent le tournis sont économiques. 9 milliards d'euros seront débloqués, dont 7 milliards investis par 2 entreprises, un constructeur, San José, et une grande banque, BBVA, le reste étant à la charge des administrations. Le projet a fait l'objet, c'est suffisamment rare pour être souligné, d'un vote unanime du conseil municipal, de la gauche radicale à l'extrême droite, tout le monde est pour. Seuls des membres de la majorité de gauche de l'ancienne équipe s'y étaient opposés, y voyant une opération de spéculation. Pour faciliter le consensus, l'ancienne maire Manuela Carmena, proche de Podemos, avait réécrit le projet pour réduire un peu peu la voilure et imposer davantage de logements sociaux.
Mathieu de Taillac. Le temps de demain, mercredi pour finir, il sera humide sur le nord-ouest, plutôt ensoleillé vers le sud. L'après-midi, le ciel sera bien dégagé au sud d'une ligne La Rochelle-Paris-Metz. Les températures minimales de 10 à 21 degrés, au plus chaud compté de 20 à 31 du nord au sud. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun. Prochain rendez-vous avec l'information à 22h avec Sébastien Berriot.